Bon, ben, on le dit, c'est le jour d'élection aujourd'hui aux États-Unis. Ça a commencé à minuit et si vous voulez savoir comment ça va se passer, dites-nous où vous habitez aux États-Unis parce que c'est tellement variable d'un endroit à l'autre. Ça dépouille à 7 heures le matin, d'autres attendent à 8 heures ce soir. On en a pour des jours.
Oui, exactement. Puis c'est justement ce dont je voulais te parler. Des fois, on cherche ces temps-ci les bonnes nouvelles, Paul. Et honnêtement, quand tu compares notre système électoral avec celui des Américains, je veux dire, on a de quoi se consoler. Parce qu'il serait inconcevable qu'on aille voter, nous autres, une journée, que ce soit une élection québécoise ou canadienne, et qu'on se dise, on saura peut-être pas ce soir qui est le gagnant, qui formera le gouvernement. C'est inconcevable. Chez nous, on va voter, puis on sait qu'on va avoir un gagnant ou une gagnante le soir du vote. Alors que là, ce qui se prépare, c'est une longue soirée, et on n'est pas certain qu'on aura un gagnant ou une gagnante au terme du dépouillement. Parce qu'aux États-Unis, nous autres, au Québec, au Canada, on a un système centralisé. Tu as le directeur général des élections du Québec, tu as le directeur général des élections du Canada, puis ils gèrent. Ils gèrent pour l'ensemble du territoire qui est sous leur compétence. Dans le cas des États-Unis, ça relève de chaque État. Chaque État a son système. Et là, évidemment, tu as des règles différentes, notamment pour le vote postal, le fameux vote par correspondance. Et là, un des grands enjeux de ce soir, c'est de savoir comment chaque État va gérer le vote par correspondance. Dans des États comme le Texas, la Pennsylvanie, le Michigan, la Caroline, le Nevada, le Parti républicain, les avocats du Parti républicain ont tenté de faire invalider des milliers de bulletins de vote. Dans le cas du Texas, ils ont essayé de faire invalider 127 000 bulletins de vote. Jusqu'à maintenant, les juges ont dit non, faut les compter. Un État comme la Pennsylvanie, qui est un État à surveiller ce soir, eux autres, ils ont décidé de compter tous les votes qu'ils vont recevoir par la poste d'ici vendredi. En autant, évidemment, que l'enveloppe porte la date d'aujourd'hui au plus tard. Il faut que la personne ait voté aujourd'hui au plus tard.
Et j'ai même vu dans certains États, la date limite, c'est le 12 novembre.
Alors, c'est ça, ça varie.
Oui, je te dirais pratiquement d'une région à l'autre.
Dans certains cas, effectivement, le county, là, ça peut varier aussi. Alors, ce qui est clair, alors là, pour la Pennsylvanie, on le sait que ça va être un État-clé. Ils ont tellement peur d'une contestation des républicains que le responsable du scrutin en Pennsylvanie, a décidé de mettre de côté tous les votes qu'il va recevoir après 20 heures ce soir. Alors, mettons que les votes sont valables, la personne a mis l'enveloppe à la poste au plus tard aujourd'hui, puis c'est bien estampillé là, que ça date d'aujourd'hui. Là. Bon, ben là, si ça arrive après 20 heures ce soir, ils mettent de côté ces votes-là, puis ils les comptent pas tout de suite. Si jamais il y avait un résultat très serré en Pennsylvanie, là, ils pourraient décider de les compter. Mais attention, ils vont compter ceux qui seront pas contestés par l'un ou l'autre des partis. Et puis là, ce qu'ils vont regarder, c'est l'enveloppe. Est-ce que la date est bien claire sur l'enveloppe? Puis si c'est pas clair que le vote a été posté au plus tard aujourd'hui, ils vont essayer de le faire éliminer, de le faire disparaître.
Ah non, écoute, ça va être une bataille vote par vote, là.
Exactement, exactement. Et puis, moi, je vais te dire, alors, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on ait un résultat massif pour l'un ou pour l'autre des candidats ce soir, qu'il y ait une victoire claire pour éviter, justement, cette multiplication des recours juridiques.
Juste rappeler que la dernière élection, là, Clinton avait gagné les votes, le vote populaire par 2%.
Mais c'est 3 millions de plus de votes qu'elle avait eu, si je me trompe.
Mais elle s'est fait planter au collège électoral.
Exact.
D'aplomb, là. Il n'y avait pas de nuance
non,
possible.
Non, exactement. Et moi, l'espoir que j'ai ce soir, c'est que le taux de participation va être tellement élevé qu'on va finir par avoir un résultat clair. Parce que je vous le rappelle, aux États-Unis, ça ne vote pas. En 2016, ça a voté à 55 %. En 2012, j'arrondis, encore 55 %. En 2008, ça a voté à 57 % des électeurs inscrits. Là, on s'enligne pour une élection où ça va voter à au moins 60. Certains prédisent même un taux de participation de 65 % des électeurs inscrits. Ça s'est pas vu depuis 1908, Paul. Alors, quand ça vote fort de même, habituellement, c'est parce qu'il y a du changement dans l'air. Et l'espoir que j'ai, moi, c'est que le résultat va être très, très clair. Ça va être très, très clair. Mettons que c'est Biden qui gagne. Je pense que s'il y a un raz-de-marée, ça va être du côté démocrate. Et puis à ce moment-là, ça va rendre les procédures puis les contestations futiles. Tu comprends? Parce que le résultat va être tellement massif, la victoire va être tellement massive.
Vois, moi, là, j'ai un bémol un peu sur ce que tu dis pour deux raisons. D'abord, je pense qu'il y a bien des gens qui votent Trump et qui le disent pas.
Oui, ça, c'est vrai.
Et c'est pas négligeable.
Ça, c'est vrai.
D'une part.
C'est vrai.
D'autre part, Trump aime pas perdre. Et il va se battre.
Ah,
et
mais...
il a mobilisé des avocats dans chacun des bureaux de scrutin.
Il l'a déjà annoncé.
Oui, oui, puis que ça va être c'est une contestation. Et il a déjà dit, je cite, « Si je perds, c'est qu'il y a eu fraude. »
Oui, oui, absolument.
Je pense que t'as beau avoir un gagnant, peut-être. Je pense pas que ça va être aussi clair qu'on souhaite.
Ben, j'ai hâte de voir.
Je pense surtout qu'on en a pour des journées et des journées à se retrouver en contestation.
Je pense que non.
Tu penses?
Je fais ma prédiction.
C'est parfait.
Je m'étire le coup. Je vous le dis. Moi,
on jase
en masse. Je pense qu'il va y avoir des États clés qui vont voter pour Biden et que ça va mettre fin à toute contestation possible. Surveiller la Floride. Moi, je pense pas que le Texas va finir par voter démocrate, là. Mais s'il fallait que ça vote démocrate au Texas, c'est fini. La messe est... Et dites, Trump peut pas gagner s'il n'y a pas le Texas. Les démocrates ont certains espoirs au Texas. On verra. Mais enfin, bref, on aura une belle soirée électorale et puis on se reparlera des résultats et de l'impact que ça a pour nous ici dans les jours qui viennent.
Le ministre Stephen Guilbeault qui va présenter aujourd'hui un projet de loi pour obliger Netflix et les autres géants du Web à produire du contenu canadien.
Enfin!
J'ai une question avant de te laisser aller. Qu'est-ce qu'on entend par contenu canadien?
Ah, voilà. Ça, c'est le CRTC qui va le définir, mon ami.
Okay.
Oui, tout à fait. Exactement.
Un film américain tourné à Red Deer en Alberta ou vraiment un produit canadien?
Ah, ça, Paul, je te répète parce que j'ai posé cette question. J'ai essayé de savoir un petit peu ce qu'il y avait là-dedans. Évidemment, ils peuvent pas m'en dire trop parce que, qu'est-ce que tu veux? C'est un projet de loi qui n'est pas encore déposé, fait que là, il faut que tu grappilles, puis tu fais des appels, tu essayes de savoir ce qui se passe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un projet de loi qui amende la loi sur la radiodiffusion, ça s'appelle encore de même, même si ça concerne pas juste les radios, mais ça concerne les câbles, ça concerne évidemment les télédiffuseurs. C'est la première fois, Paul, depuis 1991, que la loi sur la radiodiffusion va être amendée. Ça fait 30 ans que ça n'a pas été amendé. C'est quand même que, tu sais, c'était, comme dirait l'autre, c'était avant les internets.
Oui.
Tu comprends?
Mm-hmm.
Alors là, le projet de loi de Stephen Guilbeault va assujettir les géants du web, Netflix, Amazon, Apple TV, Disney+, mais aussi Spotify, Apple Music. Donc, c'est pas juste le contenu télé, série télé, si tu veux, ou télé, cinéma, tout ça. Ça va être aussi pour la musique. Et là, ce qu'ils vont devoir faire, ils vont devoir investir une partie de leurs revenus dans de la production de contenu de chez nous. Et ce que je comprends, c'est que ça va être le même pourcentage que les producteurs actuels, que les grandes entreprises canadiennes de radiodiffusion. Actuellement, là, elles doivent, que ce soit Bell, que ce soit Québécois et tout le reste, elles doivent mettre 30 % de leurs revenus dans la production de contenu canadien. Alors, ces grands joueurs canadiens... évidemment, investissent une partie de ces revenus dans leur propre production. Mm-hmm. Puis, ils versent aussi des redevances dans le Fonds des médias du Canada. Bell a son propre fonds. Québécois a son propre fonds. Et donc, cet argent-là sert à soutenir financièrement les producteurs pour qu'ils produisent donc du contenu canadien ou du contenu québécois. Fait que là, actuellement, là, ce que les producteurs canadiens, les entreprises canadiennes sont obligés d'investir dans le contenu canadien, Paul, c'est 3,5 milliards par année. 3,5 milliards, ça, c'est 30 % des revenus. Et donc, si tu prends 30 % des revenus de Netflix et compagnie, là, ça veut dire que le projet de loi de Guilbeault va ajouter un autre 800 millions dans la production locale. C'est quand même pas rien. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nos artisans notamment. Puis, évidemment, il y a une partie de ce contenu canadien qui va être du contenu francophone. Fait que ça va être bon aussi pour la culture québécoise.
Non, moi, je
comprends.
C'est parfait, mais tu sais, c'est comme pour la bouffe, là. T'sais, on peut jouer sur le contenu québécois, sur un produit du Québec. Ou,
c'est sûr.
Le Canada, en général, est une région attrayante pour les producteurs. Fait que quand Netflix dit on va dépenser tant au Canada, mm-hmm. est-ce que c'est vraiment une série faite ici? À partir d'une histoire d'ici. Ou si tu prends un livre américain, c'est pas cher, on vient tourner ici.
Tout ça, c'est des très bons points. Mais une chose est sûre, ils vont être obligés d'investir 30 % de leurs revenus, si la loi est adoptée, 30 % de leurs revenus dans ta production locale qui reste à définir. Là, le Bloc le demandait, ça, le NPD le demandait. J'espère que le Parti conservateur va appuyer le projet de loi de Guilbeault. Alain Reyes, c'est le porte-parole. C'est un gars réfléchi, c'est un gars posé. Ça serait le fun que le projet de loi soit adopté avant les élections, Paul.
Bon, la liberté d'expression, M. Legault, qui est dans le camp du président français, M. Macron.
Pas à peu près. Écoute, t'as-tu déjà entendu un premier ministre dire quelque chose comme ça? Moi, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Je ne suis pas d'accord avec Justin Trudeau. Il faut protéger la liberté d'expression. J'ai jamais entendu un premier ministre être aussi tranché sur un enjeu comme celui-là, un premier ministre du Québec. Alors, il était prêt, il s'est pas échappé. Je pense bien que l'information se sera rendue, aura été relayée à Paris par soit le consulat du Québec à Québec ou encore par l'ambassade canadienne. Je pense que c'est important que les Français, le premier ministre français, peut-être le président français, sachent que le Québec est à leur côté. Mais quelle belle occasion, Paul. Quelle belle occasion dans ce débat-là pour la diplomatie québécoise et pour la politique internationale québécoise de se faire valoir. Là, il y a clairement un fossé entre le Canada et la France. Il y a une occasion pour le Québec d'occuper un espace diplomatique, de dire aux Français, regardez, on est différent là du fédéral. Le Canada a sa politique en matière de liberté d'expression. Nous, on a la nôtre. Madame Giraud, là, la ministre des Relations internationales, ça fait 2 ans qu'elle est là, Paul. Je suis pas capable de te nommer une prise de position. Je suis pas capable de te nommer un projet, quoi que ce soit, qu'elle a appuyé ou elle s'est démarquée, elle a une belle occasion là, de montrer.
La fenêtre s'ouvre.
La fenêtre s'ouvre, qu'elle fasse valoir la présence du Québec, qu'elle montre aux Français, regardez, on est là, puis on est avec vous, qu'elle pose un geste. Je ne sais pas ce qu'elle a fait dans ce dossier-là. Puis honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle a fait comme ministre des Relations internationales jusqu'à maintenant. Je l'ai trouvée très, très, très discrète.
Merci. 7h13, toujours la 30.